Silence, mes chers confrères, chères religieuses, les amis. Alors, je voudrais parler ce matin sur la notion de l'Église du Verbe incarné en tant que sacrement universel du salut et tâcher de voir comment le cardinal Journet a pu être un précurseur de cette notion de l'Église seulement comme signe, comme sacrement universel du salut. Alors, ce sont deux parties différentes. D'abord, voir cette notion nouvelle, l'Église comme sacrement, comme signe de salut. Et après, voir un peu la doctrine du cardinal Journet et essayer de voir dans un certain point comment il a pu être le précurseur de cette notion. La première partie, donc, l'Église comme sacrement universel de salut, je tâcherai de faire un petit résumé. Et pour ça, je vais utiliser un article du père Timothée McCartney qui a été publié en janvier 1974 dans le bulletin du père du Saint-Esprit. Cet article a été commenté par Mgr Lefebvre. Vous savez, les commentaires dans les conférences spirituelles, la cassette 5B. Alors, cet missionnaire, Timothée McCartney, il avait titré son article « Avant, pendant et après les conciles ». Il faisait voir la doctrine traditionnelle, la doctrine de l'Église, juste avant les conciles, et après les changements qu'a souffert cette doctrine pendant les conciles, et quelles sont les conséquences après les conciles. Alors, il disait « Avant les conciles, les magistères enseignaient que Jésus a fondé une seule véritable Église dans laquelle il est présent, médiateur auprès du Père. Il y avait donc une discontinuité radicale entre le catholicisme et les religions non catholiques. En effet, les membres de l'Église ont tout le nécessaire pour être sauvés et l'appartenance à l'Église est la seule voie ordinaire du salut. Le devoir de l'Église est de prêcher son message à tous les hommes pour qu'ils se convertissent. Les non-catholiques peuvent être sauvés s'ils sont de bonne foi, mais leur salut requiert une intervention extraordinaire de Dieu dans leur vie. » Il conclut en disant « Cette conception était essentiellement centrée sur l'Église. » Au Concile, nonobstant, Jésus est apparu comme accomplissant la religion non-chrétienne qui contiendrait des authentiques semences de l'Évangile. L'Église ne serait pas en lien avec ces religions, mais celle serait en elle comme en levant. L'évangélisation n'est pas une compétition, un effort de substitution, mais une œuvre de sublimation, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de vrai et de saint dans ces religions et montrer comment cela se trouve, sa perfection dans le Christ. Montre. Alors ça commence la doctrine de l'Église comme signe, comme sacrement. La tâche de l'Église, c'est montrer comment cela se trouve, cela trouve sa perfection dans le Christ. En outre, le Concile a reconnu la valeur salvifique des religions non chrétiennes. Il a déclaré que Dieu était à l'œuvre à travers elles et non en dépit d'elles. Elles sont donc légitimes, elles sont donc leur place dans les plans de Dieu. Les non-chrétiens, en acceptant leur humanité, on voit comment on rentre déjà dans la conférence d'hier du professeur Pasqualucci, les non-chrétiens, en acceptant leur humanité, leur vie et les mystères qui les entourent, on en fait accepter le Christ. Les non-chrétiens, en acceptant leur humanité, on en fait accepter le Christ, au moins implicitement. Les chrétiens, ayant reçu la grâce de connaître le Christ explicitement, doivent être le signe que tous les hommes sont sauvés dans le Christ. De nouveau, la notion, l'Église seulement comme signe, comme sacrement du salut. Cette conception se présente comme essentiellement centrée sur le Christ. Alors, avant c'était centré sur l'Église, maintenant la conception de cette Église est centrée sur le Christ. Depuis le Concile, il écrivait ça en 1974, nous sommes passés déjà 24 ans. Depuis le Concile, la médiation universelle du Christ est maintenue, mais en respectant le pluralisme religieux. Ce que Dieu aurait révélé en Jésus une fois par toutes, c'est que la décision cruciale concernant le divin est prise par l'homme dans sa relation avec la communauté humaine. C'est dans sa relation avec la communauté humaine que l'homme se ouvre au divin et communique avec Dieu. Quand les missionnaires enseignent aux non-chrétiens à aimer tous les hommes, c'est alors qu'ils évangélisent. C'est ça la mission du missionnaire, enseigner aux non-chrétiens à aimer tous les hommes. En conséquence, chaque religion aurait son identité et son autonomie à cause de la certitude absolue que la foi inspire aux croyants au sujet du contenu de sa foi. Quand le non-chrétien fait un acte de foi, il se trouverait dans une relation avec Dieu qui n'est pas moins immédiate que celle du chrétien. On rappelle, n'est-ce pas, ce que nous disait hier le père Pierre-Marie, là, cette foi naturelle. Quand le non-chrétien fait un acte de foi naturelle, parce que ce n'est pas informé par la charité, ce n'est pas une foi surnaturelle, il se trouverait dans une relation avec Dieu qui n'est pas moins immédiate que celle du chrétien. Cette conception du salut est essentiellement centrée sur Dieu. Voyons le déplacement, centré sur l'Église, centré sur le Christ, maintenant centré sur Dieu. Et nous allons, et nous sommes déjà, nous y sommes, centrés sur l'homme, centrés sur l'humanité. En effet, l'Église se réfère au royaume de Dieu, et Jésus, le Fils de Dieu, se réfère à l'œuvre du Père. Il n'est pas donc nécessaire aux non-chrétiens d'adhérer à l'Église pour être sauvé s'il adhère à Dieu. Et l'Évangile n'est qu'un moyen de salut parmi les autres. Le but du message chrétien est de libérer les non-chrétiens en vue d'un contact salutaire avec ce qu'il y a de meilleur dans leur tradition religieuse. Seulement la mission de l'Église, le but du message chrétien est de libérer les non-chrétiens en vue de ce contact salutaire, pas avec ce que l'Église va les donner, sinon ce qu'il y a de meilleur dans les traditions de eux-mêmes. Alors cette description, c'est un article d'un père, d'un missionnaire, n'est-ce pas? Nous profitons de cet article, Monseigneur Lefebvre a bien commenté dans ses conférences, mais cette description peut être exagérée, on va nous dire, mais c'est pas vrai, c'est l'opinion d'un simple prêtre. Quand même, l'article a été publié dans la revue de Père Espiritain, c'est la revue, et après ça a été repris par une revue de la congrégation des religieuses. Monseigneur a tiré l'article de la revue de missionnaires, de la congrégation de missionnaires. Alors, ce n'est pas un simple article. Mais quand même, cette doctrine a été confirmée par un document élaboré par la Commission internationale de théologie. Hier, on fait référence à cet article, c'est de la Commission internationale de théologie, le christianisme et les religions. Cet article est paru dans ce document, octobre 1996, c'est publié dans la documentation catholique du 6 avril de l'année passée. Alors nous pouvons résumer et faire une espèce de schéma de cet article. D'abord, selon cet document, selon le Nouveau Testament, le salut a pour fondement unique la médiation salvifique de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dit le document, a uni l'annonce du royaume de Dieu avec son Église. Donc, Il y a une distinction entre le royaume de Dieu et l'Église. Le peuple de Dieu et l'Église sont deux choses différentes. Et après, le document nous parle de deux vocations fondées sur la médiation unique de Christ. Deux vocations différentes. La vocation des chrétiens, catholiques et non catholiques, ordonnée à l'Église, c'est une ordination graduelle à l'Église, du point de vue de l'appel universel au salut, qui inclut l'appel vers l'Église. Rappelons aussi, l'appel universel au salut est plus générique, plus général, que l'appel vers l'Église. Il y a un appel à l'Église ordonné à l'appel universel du salut. Et après, il y a la vocation des non-chrétiens ordonnée au peuple de Dieu, distante, différente de l'Église. Une ordination fondée sur le fait que l'appel universel au salut inclut la vocation de tous les hommes à l'unité catholique du peuple de Dieu. Alors, il y a cet appel universel au salut, il y a la vocation de tous les hommes à l'unité du royaume de Dieu, et dans cet appel universel, il y a l'appel des chrétiens à l'Église et l'appel des non-chrétiens au peuple de Dieu. Voyons qu'il y a déjà des choses très graves dans ce document. Et alors, la universalité de l'action salvifique du Christ et de l'Esprit conduit donc à s'interroger sur la fonction de l'Église. C'est le document même qui pose la question. Alors, quelle est la fonction de l'Église? Il faut nous interroger sur la possibilité de parler encore de la nécessité de l'Église pour le salut et sur la compatibilité de cette nécessité avec la volonté salvifique universelle de Dieu. La nécessité de l'Église, pour ces deux documents, pour le salut, a deux sens différents. La nécessité de l'Église a deux sens différents. La nécessité de l'appartenance à l'Église pour ceux qui croient déjà en Jésus-Christ et qui connaissent la nécessité de l'Église pour le salut, donc c'est dans le sens d'exhorter à la fidélité aux membres de l'Église de rester dans l'Église. Mais la nécessité de l'Église pour le salut, il y a un autre sens, la nécessité du ministère de l'Église au service de la venue du royaume de Dieu. L'Église, c'est nécessaire comme ministère au service de la venue du royaume de Dieu. Alors, quelle est la fonction de l'Église? Être sacrement universel du salut. C'est-à-dire faire en sorte, et maintenant, il vient une citation de la Lumen Gentium, faire en sorte que toute trace de bien, quelle que soit, présente dans le cœur et la pensée des hommes, non seulement ne périsse pas, mais soit au contraire purifiée, élevée et portée à la perfection, comme nous a cité hier le Père Pierre-Marie. La fonction de l'Église, donc pour les documents de la Commission internationale de théologie, c'est être sacrement universel du salut, c'est-à-dire faire en sorte que toute trace du bien, quelle que soit, présente dans le cœur et la pensée des hommes, non seulement ne périsse pas, mais soit au contraire purifiée, élevée et portée à la perfection. Et alors, le document dit, dans la mesure où l'Église reconnaît, discerne et fait sien les vrais et les biens que l'Esprit Saint a accomplis dans les paroles et les actes des non-chrétiens, elle devient toujours davantage l'Église catholique véritable. Alors, quand l'Église devient Église catholique véritable, dans la mesure où l'Église reconnaît, discerne et fait sien les vrais et les biens que l'Esprit Saint a accomplis dans les paroles et dans les actes des non-chrétiens. Et dernièrement, le principe, donc, extra ecclesia nulla salus, ne doit pas être entendu dans un sens exclusiviste, mais il doit être entendu dans un sens inclusiviste. Ça veut dire ça? Intégrer dans la phrase plus générale extra Christum nulla salus, la phrase extra ecclesiam nulla salus ne se trouve plus en contradiction avec l'appel de tous les hommes au salut. Nous sommes déjà à la 12e phase. Bientôt, le prochain document de la Commission théologique dira extra hominem, dehors de l'homme, n'est-ce pas, nulla salus. Et alors, il faudrait rappeler ici, n'est-ce pas, une phrase du père Calmel, dans le prologue de sa brève apologie pour l'Église de toujours, qui condamne cette doctrine. Alors, il nous disait, égaré par la grande chimère de vouloir découvrir les moyens infaillibles et faciles de réaliser une bonne foi l'unité religieuse du genre humain, des prélats occupant les charges les plus importantes, travaillent à inventer une Église sans frontières dans lesquels tous les hommes préalablement dispensés de renoncer au monde et à Satan ne tarderaient pas à se retrouver libres et fraternels. Grâce à ces innovations sans précédent, on se félicite d'avoir abattu les barrières que retenait hors de l'Église celui qui hier encore, dans la période anticonciliaire, toute proche, rejetait les dogmes, repoussait les sacrements, ne s'abaissait pas devant la hiérarchie. On se demande ce qui empêcherait les religions non chrétiennes elles-mêmes de faire partie de la nouvelle Église universelle, continuellement mise au jour par les interprétations œcuméniques. On se le demande, si du moins l'on accepte les points de vue que se laisseraient imposer tant et tant de pères circonvenus par le Vatican II, forger un système inconnu auparavant et un appareil encore inédit en vue de gagner le monde à l'Église sans être exposé à l'échec ni souffrir persécution et en commençant par relativiser le surnaturel. Et on se rappelle de nouveau la conférence du professeur Pasqualucci, l'unité du genre humain produit par soi-même une unité profane, une unité diabolique. On se demande ce qui empêcherait les religions non chrétiennes elles-mêmes de faire partie de la nouvelle Église universelle. Se demande, pose la question, le père Calme. Alors, les documents élaborés par la Commission internationale de théologie répondent à ces questions. On se demande ce qui empêcherait les religions non catholiques, non chrétiennes, elles-mêmes, de faire partie de la nouvelle Église universelle. En 10 points, cet document de la Commission internationale de théologie nous répond. Premier point, face à la nouvelle situation créée par le pluralisme religieux, se repose la question de la signification universelle de Jésus-Christ et de son rapport avec les religions, ainsi que de la fonction qu'elles peuvent avoir dans le dessein de Dieu. Si bien que sur le plan positif, il faut retenir la signification universelle de Jésus et de son esprit, ainsi que de l'Église, nonobstant, sur le plan négatif, cette universalité de l'Église disparaît. C'est le document qui le dit. En conséquence, troisième point, avec la doctrine sur l'Église comme sacrement universel de salut, la théologie essaye de répondre à la nouvelle manière de poser les problèmes. Nouvelle manière de poser les problèmes. Quatrième point, on reconnaît qu'il y a dans les différentes religions des royaumes de la vérité qui éclairent tout homme, des semences du Verbe, que par la disposition de Dieu, il y a en elle des choses bonnes et véridiques, qu'il y a des éléments de vérité, de grâce et de bien, non seulement dans les cœurs des hommes, mais aussi dans les rites et les coutumes des peuples. Pas seulement dans les cœurs, mais aussi dans les rites et dans les coutumes de ces peuples qui ne sont pas chrétiens. Il existe, cinquième point, il existe une présence de l'Esprit Saint, non seulement dans les hommes de bonne volonté, prise individuellement, mais aussi dans les sociétés et l'histoire, dans les peuples, les cultures, les religions, et ceci toujours en référence au Christ. Il faut se rappeler ces notions pour voir après dans quelle mesure le cardinal Journet a pu influencer dans cette doctrine. Sixième point, l'esprit qui agit dans la religion est celui qui guide l'Église est le même. C'est le même esprit qui agit dans les religions et celui qui guide l'Église. C'est le numéro 86 de ces deux documents. Il existe une action universelle de l'esprit qui ne peut pas se séparer de l'action particulière qu'il mène dans le corps de Christ qu'est l'Église. Une action universelle de l'esprit qui ne peut pas se séparer de l'action particulière que ce même esprit mène dans le corps de Christ qu'est l'Église. Donc, dans les fausses religions, l'action du Saint-Esprit est de même nature que dans l'Église. Mais, huitième point, il existe une action universelle de l'Esprit qui ne peut pas se confondre, pas seulement se séparer, il ne faut pas les confondre, avec l'action particulière qu'il mène dans le corps de Christ qu'est l'Église. Donc, dans la fausse religion est en soi un instrument du Saint-Esprit indépendant de l'Église. Alors, l'action du Saint-Esprit, il ne faut pas seulement la séparer, ne peut pas se séparer, mais il ne faut pas la confondre. Le Saint-Esprit, non seulement il agit de la même manière dans les églises fausses que dans l'Église véritable, la vraie Église, mais la fausse Église est un instrument du Saint-Esprit pour ces deux documents de la Commission internationale de théologie. Étant donné cette reconnaissance explicite de la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Christ dans la religion, on ne peut exclure la possibilité que celle-ci exerce en tant que telle une certaine fonction salvifique. C'est-à-dire qu'elle aide les hommes à atteindre leur fin ultime, même malgré leur ambiguïté. Dernièrement, dans les fausses religions, le salut s'est fait par elle, indépendamment de l'Église catholique. Alors ça, c'est un tout petit résumé de cette nouvelle doctrine de l'Église seulement comme sacrement universel, signe universel du salut. Maintenant, on venons à le cardinal Journet. Nous verrons six points. Alors, le premier point, c'est les semences de l'Évangile. Quand le cardinal traite du thème des formations religieuses déviées et de la multiplicité actuelle de religions, il dit, dans son mouvement d'expansion, l'Église rencontre constamment avec un émoi fait de joie et de douleur, des formations religieuses où les vrais et les faux sont inextricablement mêlés. Telles sont les dissidences comme l'orthodoxie, encore très proche, et le protestantisme, sur bien des points plus distants, puis le judaïsme, puis l'islam et les religions pré-chrétiennes. Ce qui se transmet, ce n'est pas une infidélité, un péché de schisme. C'est une formation religieuse que le péché a rendu plus ou moins gravement aberrante et où la vérité et l'erreur sont entremêlées d'une façon en quelque sorte inextricable. C'est l'héritage ou le patrimoine d'une infidélité, le patrimoine d'une hérésie, le patrimoine d'un schisme. Mais ce n'est pas le schisme, ce n'est pas l'hérésie, c'est seulement le patrimoine. La dialectique interne d'une église hérétique tend à la transformer en église dissidente. En se séparant de l'église du Christ, elle emporte avec elle une partie de ses moyens de sanctification qu'on peut appeler des vestiges de l'église. En raison de ce qu'elle emporte de richesse de l'église du Christ, en raison de libre invitation de l'Esprit Saint qui enveloppe toutes choses et qui veut que tous les hommes soient sauvés, nous voyons qu'une telle Église tend à se modifier. C'est comme si le concept d'Église hérétique éclatait sous la pression antérieure des valeurs chrétiennes qu'il renferme encore, afin de donner naissance à un concept nouveau et originel, à savoir celui d'une Église où se transmettent non pas les péchés d'hérésie, mais les patrimoines de l'héritage d'une hérésie. Dans la mesure où les églises dissidentes détiennent encore des éléments chrétiens, dans la mesure où elles ont emporté avec elles des fragments de la véritable Église, on pourra retrouver en elle, à l'état mutilé et dégradé, quelque chose de sa nature, de ses propriétés, de ses notes, des vestiges de sa grandeur chrétienne. Alors nous avons vu dans les documents de la Commission internationale qu'il disait, on reconnaît qu'il y a dans les différentes religions des royaumes de la vérité qui éclaire tout homme, des semences du Verbe qui par la disposition de Dieu, il y a en elle des choses bonnes et véridiques, qu'il y a des éléments de vérité, de grâce et de bien, non seulement dans le cœur des hommes pris individuellement, mais dans les rites et les coutumes des hommes. Nous disons que l'Église a la vérité, la unité, la sainteté, que les prétendues églises et communautés dissidentes ne sont pas dans l'ordre voulu par Dieu. Les catholiques, nous pouvons avoir tous les péchés possibles, mais la forme catholique est sainte. Les hérétiques, les schismatiques, ils peuvent avoir toutes les vertus, mais leur forme est pécheresse. Et s'ils persistent dans cette forme mauvaise va compromettre son salut. L'œcuménisme catholique doit se fonder alors sur la distinction entre matière et forme, entre l'ensemble des éléments d'un tout et l'organisation dans une forme spécifique que les qualifie. L'œcuménisme catholique va distinguer donc entre l'hérésie et le schisme matériel et la même dissidence formelle. Alors c'est justement ça le deuxième point que nous traitons du cardinal, la forme d'une église dissidente. Alors le cardinal Journet, il va faire usage de cette distinction matière et forme, mais d'une façon faible, incomplète. Il dit, on appellera forme d'une église dissidente, la forme d'une église dissidente, le patrimoine des valeurs, les complexes ecclésiologiques sur lesquels une église dissidente s'organise. La forme d'une église dissidente est habitée par les conflits de deux tendances antithétiques, la tendance du principe chrétien et la tendance du principe d'erreur. Tantôt c'est l'une qui avance, tantôt l'autre. Mais aucune ne va jusqu'à éliminer l'autre. Dans certains cas, la mise au fond du principe chrétien restera considérable et le principe d'erreur, bien qu'il représente un mal incalculable, paraîtra comparativement secondaire. On hésitera même à parler des vestiges de l'Église. Ce sont d'immenses parts de son héritage qui sont conservées. Ailleurs, au contraire, le principe d'erreur ravagera profondément la donnée chrétienne. Donc, certes, dans toute fausse religion, nous avons vu hier, il y a un certain nombre d'éléments matériels qui subsistent, tels qu'ils ont été gardés de l'héritage catholique et que l'Église proclame sien, sont à nous. Le cardinal Journet, il paraît ne vouloir voir que cette similitude élémentaire, matérielle. Dans toute dissidence, il y a des autres éléments matériels étrangers à la tradition catholique. Et ils constituent l'objet même de l'hérésie. L'objet même de l'hérésie, ce n'est pas les éléments catholiques, c'est justement les éléments non catholiques. Mais il y a aussi les constitutifs formels. On s'arrête toujours aux éléments matériels. Et aux éléments matériels, et comment, si vous voulez, qui sont à nous, Mais le constitutif formel du schisme, de l'hérésie, c'est le principe déterminant de la rébellion contre l'Église, le principe moteur qui organise la doctrine en système corrompt justement tous ces éléments. Alors le père, il nous disait hier, n'est-ce pas, que pour l'effet même de recevoir un élément dans le schisme, ça ne prouve pas, ça ne manifeste pas le désir d'appartenir à l'Église, tout au contraire. L'effet de recevoir cet élément catholique dans le schisme prouve le schisme même, la volonté, la forme d'être dans le schisme. Troisième point, les églises dissidentes. Quelles sont les conséquences de cette fausse distinction, de ce manque de distinction entre matière et forme de la dissidence? Il dit, disons que la dialectique interne d'une église hérétique tend à la transformer dans une autre chose et que dans une certaine mesure, le bien est ici plus fort que le mal. Parlons d'une église dissidente. L'avantage de ce mot est de ne pas rien préjuger des dispositions personnelles bonnes ou mauvaises des membres d'une telle église. Les églises dissidentes sont des morceaux de l'église chrétienne. Leur christianisme est mutilé. Alors notons avant tout que Charles Journet utilise deux concessions distinctes. D'une part, il parle d'église hérétique ou d'église dissidente. D'autre part, il parle de disposition personnelle des membres d'une telle église. Il l'utilise d'une façon indifférente. Alors, si on fait un syllogisme, il y aura quatre membres, quatre termes, église hérétique ou église dissidente, tantôt, ou disposition personnelle des membres d'une telle église. Ceci va permettre une ambiguïté que je vais noter dans le cinquième point. Nous sommes au troisième point, les églises dissidentes, mais ce manque de distinction ou cette ambiguïté va permettre encore une ambiguïté plus forte. En plus, qu'est-ce que ce sont ces églises dissidentes, de morceaux d'église chrétienne dont le christianisme est mutilé? Il dit qu'ils sont des morceaux de l'église. Qu'est-ce que c'est ça? Quatrième point, ce que nous pouvons appeler un bloc rattaché à l'église. Le cardinal, il dit, même là où la grâce sacramentelle n'est que imparfaitement orientée, comme je l'ai juste de l'église orthodoxe, même là où elle n'est que partiellement sacramentelle, comme je l'ai juste de l'église protestante, ou pas du tout, comme je l'ai juste de la gentilité, bref, là où paraît quelque chose de l'âme de l'église, paraît aussi quelque chose de son corps. Le juste, qui peut-être sans le savoir appartient déjà à l'Église par le désir de leur charité, ne pourront pas empêcher ce désir, si caché soit-il de sa nature, de se traduire au dehors de quelque manière et pour autant de prendre corps. Pour être exact, il faudrait parler, à leur propos, d'une appartenance à l'Église, non pas exclusivement, mais principalement invisible et spirituel. C'est par abréviation qu'on dit ordinairement qu'ils appartiennent invisiblement à l'Église. Mais il faudrait parler plutôt de exclusivement, non pas exclusivement, mais principalement invisible et spirituel. Si nous n'avons pas bien compris, il dit plus loin, il nous clarifie, les justes qui vivent dans l'orthodoxie, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, les formations pré-chrétiennes appartiennent visiblement et corporellement à ces religions, mais invisiblement et spirituellement à la vraie Église. Par l'ensemble de ces manifestations, ils contribuent à former le corps de ces religions. Par la meilleure part de ces manifestations, ils contribuent déjà à former d'une manière initiale le corps de la vraie Église. Je répète, par la meilleure part de ces manifestations, par exemple un orthodoxe qui reçoit le baptême ou s'il confesse, il assiste à une messe valide, du point de vue du sacrement. Un protestant qui reçoit un sacrement valide, par la meilleure part de ces manifestations, il contribue déjà à former d'une manière initiale le corps de la vraie Église. Alors il dit, considérons ce que devient une Église dissidente dans la mesure où elle est représentée par les membres justes. Ceci ne constitue pas un simple agrégat de personnes dont chacune est seulement appartiendée par le désir à l'Église du Christ. Il forme un bloc ayant sa physionomie propre et rattaché comme tel à l'Église vraie. Du point de vue supérieur de la théologie catholique, ce qui apparaîtra avec évidence, ce n'est pas du tout quelque tendance de ces blocs à former une communion qui viendrait à se juste opposer à la communion romaine pour constituer à côté d'elle une autre branche légitime de l'Église du Christ. C'est au contraire une tendance à se identifier d'une manière de plus en plus profonde à la communion romaine elle-même. Voici la conséquence, donc, dont nous avons parlé au troisième point. La question de savoir si les groupes, les communautés ou confessions non catholiques appartiennent en tant que telles à l'Église, et c'est un sujet, un thème, n'est-ce pas, une question qui a préoccupé les théologiens contemporains. Il faut dire que d'aucune façon, on ne peut pas accepter que les confessions non catholiques soient comme des branches de l'unique arbre. Ça, nous avons vu tout ce matin. Les groupes de justes en dehors de l'Église n'ont pas les caractères d'Église. Mais les théologiens s'interrogent. Les membres justes de ces communautés, les sujets qui croient en particulier, chacun de par soi, pris individuellement, sont-ils membres de l'Église catholique? Sont-ils particulièrement individuellement membres de l'Église catholique? Ou faudrait-il dire que ces groupes appartiennent de quelque façon à l'Église catholique d'une manière analogue à celle des individus justifiés? Alors, ils appartiennent individuellement pris ou en bloc, comme dit le cardinal. Journet, il a répondu que les justes qui vivent dans l'orthodoxie, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, les formations pré-chrétiennes, par la meilleure part de ces manifestations, contribuent déjà à former d'une manière initiale le corps de la vraie Église. Ceci ne constitue pas un simple agrégat de personnes, il forme un bloc ayant sa physionomie propre et rattaché comme tel à l'Église vraie. Nous disons que le cardinal parle donc d'une union visible, mais imparfaite, parce qu'il parle d'un corps. Ce n'est pas seulement une appartenance spirituelle à l'âme, non, au corps de l'Église. Alors, il parle d'une union visible, mais imparfaite, des groupes non catholiques en tant que tels avec l'Église catholique. Cependant, contre cette opinion, c'est un fait que les communautés non catholiques sont déterminées par leur opposition à l'Église catholique. Sans cette opposition, elles perdraient le sens de leur existence. Il est impensable que malgré leurs caractéristiques par lesquelles ils sont constitués un groupe opposé à l'Église catholique, ils puissent appartenir en tant que tels à l'Église catholique. On peut seulement dire que, dans un certain sens, que les individus qui font partie de ces communautés non catholiques et qui, malgré cela, ont été justifiés, ils appartiennent à l'Église catholique. Mais les individus, mais pas en tant que bloc, et surtout pas en formant un corps appartenant déjà à l'Église catholique. Bon, il faudrait citer ici la Mythici Corporis. Je passe. En plus, il faut affirmer que du point de vue moral, certains membres de fausses religions leur appartient formellement. Pas seulement leurs créateurs, leurs principaux représentants historiques, mais aussi leurs chefs actuels, leurs théologiens, leurs membres les plus conscients et les plus éclairés. Cela forme On fait déjà on fait la forme hérétique ou schismatique de ces églises. Des autres membres n'appartiennent pas aux fausses religions que matériellement, du fait de leur naissance dans son sein, dans l'ignorance de ce qui la constitue comme séparé, comme ennemi de l'Église. Ceux-ci peuvent recevoir et garder la vie surnaturelle par tous les éléments matériels catholiques conservés dans les schismes ou dans les récits, mais ils risquent à tout moment d'être corrompus par les éléments mauvais et surtout par la forme, par l'esprit que fait le schisme. Alors, il faut les convertir. Cinquième point, la tâche d'un œcuménisme catholique. Nous disons, il faut les convertir. Qu'est-ce que dit le cardinal Journet? La sanctification de tous les groupes qui portent les noms chrétiens est donc ce qui nous devons, semble-t-il, demander le plus immédiatement. Leur union à l'Église s'en suivra par voie de conséquences. Nous disons qu'il faut les convertir. Il dit non, il faut prêcher, il faut prier afin qu'ils se sanctifient. La sanctification de tous les groupes, c'est ce que nous devons, semble-t-il, demander le plus immédiatement. Il ne faut pas aller les convertir, il faut prier pour sa sanctification. Et dans ce moment, à ce moment-là, dans la même page, il cite à Congar. La tâche d'un œcuménisme catholique consiste à déterminer théologiquement le statut des églises dissidentes comme églises et leur rapport comme église à la véritable église et à son unité. Alors, c'est la tâche d'un œcuménisme catholique. Il parlait en l'année 37 d'un œcuménisme catholique. Mais Congar, plus tard, dans le livre Unam Sanctam, il dit, il ne faut point parler, comme nous avons fait en 1937, d'un œcuménisme catholique. Du moins, si l'on prend ces mots au sens d'entreprise concrète en vue de retrouver l'unité. Il faut parler d'une participation catholique à l'œcuménisme. Participation catholique à l'œcuménisme. Dans laquelle tant chacun des fidèles que l'Église comme telle devront évidemment suivre loyalement les principes catholiques, mais en visant finalement à apporter leur part d'activité au mouvement unique dont aussi bien les premières manifestations organisées sont apparues dans le monde protestant, comme l'avait Séléni nous a fait voir ce matin. Pour Charles Journet, la sanctification de tous les groupes qui portent le nom des chrétiens est donc ce que nous devons demander le plus immédiatement. Pour Congar, la tâche d'une participation catholique à l'écuménisme consiste à déterminer théologiquement les statuts des églises dissidentes comme églises et leur rapport comme église à la véritable église et à son unité. Pour nous, nous tirons les distinctions, des distinctions que nous avons faites, nous tirons les principes d'une pastorat tout à fait contraire à celle du Vatican II et à son esprit. Le Concile Vatican II recherchait un accord avec les chefs de l'hérésie et du schisme, avec ceux qui en sont formellement partisans, et il aidait les pires hérésiarques à rendre leur peuple formellement non catholique. Ainsi, il décourageait alors de se convertir ceux qui appartiennent matériellement à la dissidence. La pastorale catholique doit avoir deux niveaux. Au niveau supérieur, l'Église reprendra ses condamnations de doctrines hérétiques et schismatiques, en les précisant et en éclairant leurs contradictions avec la foi divine enseignée fidèlement par son magistère. L'Église devra aussi réprimer en son sein toutes les habitudes corrompues et corruptrices d'un faux écuménisme. Les éloges et la réhabilitation des hérésiarques, la recherche des compromis doctrinaux, la collaboration humaniste remettant l'entente religieuse à plus tard, etc. Et au niveau inférieur, l'Église se fera condescendante pour faciliter la conversion de ces âmes qui ne la connaissent qu'imperfectement, mais qui n'ont jamais formellement péché contre elle. Sixième point du cardinal, la mission de l'Église comme sacrement universel de salut. Le cardinal dit, l'expansion de l'Église pourra se définir comme une intégration incessante des éléments qui, sous un aspect du moins, lui étaient encore étrangers. L'expansion de l'Église pourra se définir comme une intégration incessante des éléments qui, sous un aspect du moins, lui étaient encore étrangers, ou même opposés. L'Église, au contact des multiples ressources des personnes humaines, de diverses formations ethniques, culturelles, religieuses, loin de se diluer dans la masse de ces matériaux, cherche à s'en emparer pour les transformer en elle. Mais elle est en retour stimulée par eux. Elle trouve en eux l'occasion de donner corps à des virtualités qui lui sont propres, mais qui sans eux seraient restées inexercées et que s'ils avaient paru dans un ordre différent, auraient pu être éveillés pour une part dans un ordre différent. Et de nouveau, il cite à Congar, les valeurs que sont les trésors spirituels de l'Église reçoivent à telle ou telle époque, dans telle condition, au sein de tel peuple ou de telle culture, enfin, dans telle âme ou telle famille de âmes, un développement spécial, et que du point de vue de la réalisation effective et de ses capacités vivantes, enrichit véritablement l'Église et la révèle à elle-même. Car l'Église, encore une fois, est un vivant qui ne se connaît lui-même qu'un vivant et qui ne prend une conscience explicite de sa propre loi et de ses possibilités qu'en les exerçant. Nous avons vu que les documents élaborés par la Commission internationale de théologie dit on parle de la nécessité de l'Église pour le salut en deux sens. La nécessité de l'appartenance à l'Église pour ceux qui croient en Jésus et la nécessité pour le salut du ministère de l'Église qui, par charge reçue de Dieu, doit être au service de la venue du royaume de Dieu. Et plus loin, à la mission de l'Église comme au sacrement universel de salut, il appartient de faire en sorte que toute trace du bien, quel qu'il soit, présente dans le cœur et la pensée des hommes, non seulement ne périsse pas, mais soit au contraire purifiée, élevée et portée à la perfection. Car l'action de l'Esprit précède, et parfois même de manière visible, l'activité apostolique de l'Église. L'action de l'Esprit précède, et parfois même de manière visible, l'activité apostolique de l'Église, et son action peut également se manifester dans la recherche et l'inquiétude religieuse des hommes. Dans la mesure où l'Église reconnaît, discerne et fait sien le vrai et le bien que l'Esprit Saint a accompli dans les paroles et les actes des dons chrétiens, elle devient toujours davantage l'Église catholique véritable. Alors, conclusion. Nous avons vu au début que pendant le Concile, Jésus est apparu comme accomplissant la religion non chrétienne, qui contriendait des authentiques semences de l'Évangile, que l'Église ne serait pas sans lien avec ses religions, mais celle serait en elle comme en levant, que l'évangélisation est une œuvre de sublimation, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de vrai et de saint dans ses religions et montrer comment cela trouve sa perfection dans le Christ, que le Concile a reconnu la valeur salvifique des religions non chrétiennes et qu'il a déclaré que Dieu était à l'œuvre à travers elle et non en dépit d'elle. Alors, à la fin de notre étude, nous voyons que nous pouvons affirmer que dans l'ouvrage « L'Église du Verbe incarné » du cardinal Journet, c'est le seul ouvrage que je étudie, il n'y a pas de justification claire et précise de ce dernier point. On ne peut pas dire que dans le livre du cardinal Journet, nous trouvons que le Concile a reconnu les valeurs salvifiques de la religion non chrétienne, qu'il a déclaré que Dieu était à l'œuvre à travers elle et non en dépit d'elle. Mais que la doctrine de points 1, 2 et 3, si vraiment, trouve une référence dans cet ouvrage. C'est-à-dire que Jésus est apparu comme accomplissant la religion non chrétienne qui contiendrait des authentiques semences de l'Évangile, que l'Église ne serait pas sans lien avec sa religion, mais elle serait en elle comme en l'évent, et que l'évangélisation est une œuvre de sublimation, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de vrai et de saint dans ces religions et montrer comment cela trouve sa perfection dans le Christ. Pour cela, en ce sens, on peut bien dire que le cardinal Journet, c'est un précurseur de cette doctrine. C'est ça que je voulais démontrer.
Gaudia vite, perendem Cristo nomino nostro.